Vous écoutez, on lit pour vous.
Pourquoi tant de cancers chez les quarantenaires? Un dossier de Judith Lachapelle paru le 10 novembre 2024 dans la presse. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Sur le coup, je n'ai pas réalisé ce que ma chirurgienne me disait. C'était la veille de l'opération où elle devait retirer cette masse de nature inconnue dans mes intestins, révélée quelques semaines plus tôt par une coloscopie. Au téléphone, ma médecin venait de s'assurer que j'avais bien pris les médicaments requis avant le bistouri quand elle a lâché. En fait, à la lumière des tests préopératoires, je m'apprête à vous retirer une tumeur cancéreuse. Je me souviens d'avoir pensé à rien. J'avais effleuré cette possibilité, mais elle n'avait aucun sens pour moi. Une rapide recherche m'avait révélé les 4 facteurs de risque les plus communs du cancer colorectal. Homme, plus de 50 ans, obèse, sédentaire. J'étais une femme de 44 ans, en pleine forme, j'avais couru mon 3e demi-marathon quelques mois plus tôt, alors non. Ça ne pouvait pas être ça. Le lendemain, une fois émergée des vapes de l'anesthésie, ma chirurgienne me confirmait pourtant son diagnostic. Une belle tumeur de la taille d'une boule de billard avait été retirée de mon côlon. J'ai eu de la chance, pas de métastase, pas eu besoin de chimio. Quelques semaines de convalescence et hop, j'étais de retour au programme habituel. J'ai eu beaucoup de chance. Je n'ai pas eu le temps de réaliser que j'avais un cancer qui avait déjà disparu. J'en ai même fait un sujet de blague. Tu sais pas ce qui m'est arrivé? J'ai eu le cancer pendant 24 heures. Mais la rémission psychologique a été beaucoup plus longue. Le cancer est resté là d'une certaine façon dans ma tête. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'avais fait de mal? Les médecins et spécialistes haussaient les épaules. « Ça arrive, » répondait-il. « En fait, oui, c'est vrai. Ça arrive. » Mais le problème, c'est qu'un cancer à 40 ans, ça arrive de plus en plus souvent. Honnêtement, ça nous effraie. Au début de sa pratique, il y a à peine une dizaine d'années, le docteur François Letarte, spécialiste de la chirurgie gastro-intestinale du CHU de Québec, voyait rarement passer des cas de tumeurs cancéreuses chez les quarantenaires. Plus maintenant. Ça nous choque encore, mais on est un peu plus habitués, dit-il. Le cas de cancer chez les moins de 50 ans ne représente que 10% des cas diagnostiqués chaque année au Canada, mais de plus en plus de données publiées en Occident montrent que pour certains cancers, le nombre de cas augmente maintenant de façon disproportionnée chez ceux que les chercheurs désignent comme les jeunes adultes. Autrement dit, les membres des générations X et milléniales souffrent plus souvent du cancer que leurs aînés quand ils avaient le même âge. C'est notamment le cas pour le cancer colorectal, l'un des 4 cancers les plus souvent diagnostiqués au Canada et l'un de ceux avec le cancer du sein pour lesquels la hausse des cas chez les jeunes adultes est le plus remarquée. Le docteur François Letarte nous dit « Au début des années 2000, les cas de cancer colorectal chez les moins de 50 ans représentaient 5% des cas. En 2030, selon les données américaines, on prévoit qu'ils représenteront autour de 30 à 40 % des cas. C'est assez épeurant. Sur la quinzaine de cas examinés chaque semaine par le groupe de chirurgiens auquel appartient le docteur Letarte, au moins un ou deux concernent désormais des patients de moins de 50 ans. Et on en voit beaucoup aussi chez des patients dans la trentaine et même dans la vingtaine. Un phénomène observé partout en Occident. Au centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, CHUM, à Montréal, les préoccupations du docteur Letarte trouvent écho chez la docteure Sema Hassan, chirurgienne oncologue et spécialiste du cancer du sein. Elle aussi a remarqué que le nombre de ces jeunes patientes dans la vingtaine, la trentaine ou la quarantaine est en augmentation. En 2024, le phénomène l'a particulièrement frappé, elle et son équipe. Honnêtement, ça nous effraie. Dans une étude canadienne parue en avril 2024, les chercheurs ont évalué que les cas de cancer du sein dans la vingtaine ont augmenté de 45 %. C'est beaucoup, dit la docteure Hassan. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas assez bien. Bon nombre de ces cas de cancer peuvent être associés aux facteurs de risque, notamment l'hérédité et la génétique. Mais il y a aussi des choses qu'on ne comprend pas, renchérit le docteur Le Tarte. Quand je regarde les derniers patients que j'ai opérés et qui étaient début trentaine ou début quarantaine, ce n'étaient pas nécessairement des gens inactifs ou avec de mauvaises habitudes de vie. Clairement, il y a eu des changements au niveau de l'environnement. De quels changements parle-t-on? Des aliments qu'on mange? De l'air qu'on respire? Du stress, de la couche d'ozone, des OGM, des pluies acides, des composés organiques volatiles et du bisphénol A? On a beaucoup d'hypothèses, mais pas de réponse claire, doit admettre le médecin François Le Tarte devant ses jeunes patients. Ça génère parfois beaucoup de frustration, surtout chez les jeunes. 17 cancers en hausse chez les X et les milléniaux. Selon l'American Cancer Society, sur 34 types de cancers les plus courants aux États-Unis, 17 sont en augmentation parmi les cohortes des générations X, personnes nées entre 1965 et 1980, et milléniales, 1981-1996. Cancer du sein, cancer du pancréas, cancer du système digestif, estomac, vésicule biliaire, intestin grêle, colorectal, cancer du foie, cancer de l'utérus et de l'ovaire, cancer de l'anus et des testicules, certains cancers du rein et du sang, myélome. Les milléniaux, nés dans la décennie 1990, ont des taux d'incidence de certains cancers, pancréas du rein et de l'intestin grêle, de 2 à 3 fois plus élevés que les bébés-boomers nés en 1955. En savoir plus, source BMJ Oncology, 2023. Plus 80 % hausse des 4 cancers chez les moins de 50 ans depuis 1990. Vous écoutez « Pourquoi tant de cancers chez les quarantenaires ?» un dossier de Judith Lachapelle, paru le 10 novembre 2024 dans La Presse. Les années Cheetos et Sangria. Dans la tête de Kim Gallienne-Plante, un cancer colorectal, c'était un cancer de vieux monsieur. Jusqu'à ce qu'on lui en diagnostique un en 2021. Elle avait 35 ans et un tout petit bébé dans les bras. Combien de fois s'est-elle demandé pourquoi ça tombait sur elle? Au moins 1 milliard de fois, dit-elle. On est de la génération qui a été nourrie au roulé aux fruits et aux Cheetos, dit-elle en rigolant. Des fois, je me disais, crime, tout ce qui m'arrive, c'est à cause de ça. Et pourtant, non, ce n'est pas si simple. « Ma sœur n'a pas le cancer, » dit Kim Gallienne-Plante. « Mes parents non plus. Mon père a 82 ans et toute sa vie, il a mangé des frites et du jambon. » Qu'est-ce qui a changé dans les dernières décennies pour expliquer cette hausse du taux d'incidence? Le cancer est une maladie latente qui prend beaucoup de temps à se développer. Donc oui, les expositions pendant l'enfance ou avant la naissance peuvent avoir un impact, observe Vicky Ho, professeur à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. C'est aussi ce que notent des chercheurs de l'American Cancer Society, ACS, dans une étude publiée en août 2024 dans le Lancet. Selon eux, la hausse du taux d'incidence de cancer suggère qu'il y a eu des augmentations de la prévalence des expositions cancérigènes pendant le début de la vie ou le début de l'âge adulte dans cette génération qui doivent encore être élucidées. Premier suspect, l'alimentation. des aliments riches en graisses saturées, en céréales raffinées, en aliments transformés, en sucre et en sodium, ainsi qu'une consommation excessive de viande par rapport aux végétaux, ont pris plus de place dans les assiettes à partir des années 1970, soit dans la tendre enfance de la génération X. Couplé à une augmentation de la sédentarité, ce régime alimentaire n'était évidemment pas étranger à la hausse des cas de surpoids chez les enfants X et milléniaux. À elle seule, cette combinaison de mauvaise alimentation et de sédentarité pendant l'adolescence et le début de l'âge adulte est associée à un risque accru de certains cancers, plus particulièrement de cancers colorectaux et de cancers du sein, rappellent les chercheurs américains dans le Lancet. Alcool, hormones et le reste. Au centre de recherche du CHUM, la docteure Sima Hassan réfléchit elle aussi à ce qui a changé depuis les décennies 1970 et 1980 et qui pourrait expliquer la hausse des cas de cancer du sein. Il y a la hausse de la consommation d'alcool chez les femmes. Entre l'an 2000, année où les dernières X et les premières milléniales fêtaient leur majorité, et 2017, la proportion de femmes québécoises qui ont rapporté avoir consommé de l'alcool de façon abusive, soit 4 verres ou plus en une même occasion, est passée de 10 % à 23 %. L'alcool peut augmenter le risque de cancer du sein d'environ 7 à 10%. Plus on consomme d'alcool, plus le risque augmente, nous rappelle la docteure Sima Hassan. Et il y a le facteur hormonal. Si une femme n'a pas d'enfant ou a des enfants à un âge plus avancé, c'est un facteur de risque, dit la docteure Hassan. Au Québec, l'âge moyen de la maternité est passé de 27 ans pour les bébés boomers de 1976 à 30 ans pour les millénials de 2023. Cet élément peut expliquer en partie la hausse des cas de cancer chez les quarantenaires, dit la spécialiste. Mais chez les femmes dans la vingtaine, demande-t-elle, il doit y avoir autre chose. La docteure Hassan penche surtout vers une combinaison de facteurs de risque. Par exemple, les méthodes de contraception hormonale serait la cause d'une faible augmentation du risque du cancer du sein, insuffisante pour expliquer la hausse des cas observés. Mais lorsque ces méthodes sont utilisées par une femme qui porte une mutation génétique susceptible de causer un cancer, dit la docteure Hassan, les études ont conclu que le risque devenait notable. Donc, si on additionne la hausse de la consommation d'alcool, l'âge plus avancé de la première grossesse et la prise de contraceptifs hormonaux, et qu'on ajoute le facteur génétique. En tout cas, dit la docteure Sima Hassan, on a besoin d'études pour mieux comprendre ces interactions. Vous écoutez « Pourquoi tant de cancers chez les quarantenaires ?» un dossier de Judith Lachapelle paru le 10 novembre 2024 dans la presse. La vie après ça. Une personne sur deux sera touchée par le cancer au cours de sa vie, répète la Fondation québécoise du cancer. Juste dans la salle de rédaction de la presse, près d'une dizaine de mes collègues ont, comme moi, affronté un cancer dans les 10 dernières années. Une majorité d'entre nous n'avait pas 50 ans. Deux ne sont jamais revenus au travail. Comme moi, Kim Gallienne Plante se considère comme chanceuse. Elle non plus n'a pas eu besoin de chimio, mais elle vit désormais avec une stomie. Elle a pu avoir un autre enfant et elle s'est jointe à la Fondation Digestive, un organisme fondé par une autre jeune rescapée du cancer colorectal et voué à la lutte contre cette maladie. J'ai voulu faire une différence, c'est pour ça que je me suis impliquée pour faire de la sensibilisation. Ces jours-ci, Kim accompagne une amie qui n'a pas sa chance. Le cancer a été diagnostiqué trop tard, les métastases ont gagné les poumons. Le pronostic est mauvais pour son amie, qui n'a pas 50 ans. C'est aussi le problème avec les jeunes adultes, constatent les médecins. Malgré les symptômes, ils attendent parfois trop longtemps avant de consulter. Hier, j'ai opéré une jeune patiente de 39 ans, dit le docteur François Letarte. Elle est en pleine forme. Ça faisait 2 ans qu'elle se disait que non, ça ne pouvait pas être ça. Mais oui, c'était bien ça. Quelques bonnes nouvelles. À ce stade-ci de la lecture de ce dossier, au moment où les bébés boomers se morfondent à l'idée qu'ils ont nourri leur rejeton au sandwich au ballonné, pain très blanc et pudding publicisé par les enfants stars, et que leurs héritiers grimacent en pensant à leur adolescence vautrée dans le canapé, à écouter Musique Plus en vidant un paquet d'Oreo ou un sac de Doritos, ou les deux, il convient de jeter un peu de lumière sur ce sombre portrait. D'abord, il y a des cancers dont le taux d'incidence dégringole chez les jeunes adultes. Toutes ces campagnes anti-tabac ont un impact concret aujourd'hui. La forte diminution du tabagisme chez les X et les milléniaux a fait chuter les cas de cancer du poumon et des autres associés, comme les cancers de la bouche, de la gorge et de la vessie, dans ces générations. Le trou dans la couche d'ozone et le danger des rayons UV ont convaincu les parents des années 1990 de badigeonner leurs héritiers de crème solaire. Le résultat? 30 ans plus tard, les cas de mélanome tendent à diminuer chez les moins de 50 ans, alors qu'il augmente chez les plus vieux. Et le fameux test gynécologique, PAP, offert à toutes à partir de 21 ans, a énormément contribué à réduire l'incidence du cancer du col de l'utérus. Et puis, ce n'est pas parce que l'incidence du cancer a augmenté chez les jeunes adultes que le taux de mortalité a nécessairement suivi la même courbe. De plus en plus, les gens sont informés et parlent plus rapidement à leur médecin, se réjouit Marco Dessel, directeur général de la Fondation québécoise du cancer. Des cas sont diagnostiqués à des stades un peu plus précoces qu'auparavant, améliorant les chances de survie. En 1970 ou 1980, avoir un diagnostic de cancer du sein, commence M. Dessel sans finir sa phrase, mais aujourd'hui, dans plusieurs types de cancer du sein, le taux de survie après 5 ans est de 90 %. Si les cancers augmentent dans la quarantaine, c'est un signal pour la Fondation québécoise du cancer que la prévention doit commencer plus tôt. On connaît tous des cas d'athlètes qui n'ont fait aucun excès et qui ont développé des cancers, évoque Marco Dessel. Mais pour la majorité des cas, les facteurs de risque sont les mêmes. Tabac, alcool, obésité, sédentarité. Adopter de saines habitudes de vie, ce n'est pas une mode. Ça a une incidence démontrée scientifiquement. C'était « Pourquoi tant de cancers chez les quarantenaires ?» un dossier de Judith Lachapelle paru le 10 novembre 2024 dans La Presse.
La révolution tranquille entre l'ici et l'ailleurs pour une histoire globale. Un texte de Jean-François Nadeau paru le 2 avril 2024 dans Le Devoir. En toute logique, la révolution tranquille aurait dû se conclure par l'indépendance du Québec, estime l'historien Jean-Philippe Carlos, tandis que son collègue Stéphane Savard, avec qui il vient de piloter un ouvrage collectif sur cette période phare de l'histoire, sourit légèrement, sans trancher aussi catégoriquement. Messieurs Carlos et Savard viennent de publier « La révolution tranquille entre l'ici et l'ailleurs », un ouvrage collectif dont l'ambition est de décentrer le regard pour envisager cette période importante sous des angles nouveaux. L'ouvrage quitte le cadre national strict et les balises d'une histoire traditionnelle habituelle. L'ambition est claire. Replacer les événements dans un contexte historique plus large, débordant les cadres locaux et nationaux. En 2021, Stéphane Savard avait déjà fait paraître, avec la collaboration de Martin Paquette, une brève histoire de la Révolution tranquille. Des changements, La Révolution tranquille correspond à une période de changement rapide, entrepris après la mort de Maurice Duplessis en 1959. La flamme de cette révolution, tempérée d'emblée par sa tranquillité, brûle jusqu'à vaciller quelque peu au cours des années 1970 pour s'étioler et s'éteindre après le référendum de 1980 et le rapatriement de la Constitution en 1982, alors que le néolibéralisme a le vent en poupe. Reste que l'État qui en a résulté, à la fois providentialiste, modernisateur, démocratique et laïque, constitue encore, à ce jour, la base d'un modèle jugé caractéristique du Québec. Elle a eu tôt fait de s'inscrire dans un discours de la mémoire, comme le montre dans ses pages l'historien Xavier Gélinas, un des collaborateurs de l'ouvrage. Si les phénomènes sociaux, culturels, politiques et économiques que l'on associe à cette révolution tranquille ont été observés à répétition, ils le sont généralement en vase clos, comme s'il s'agissait de manifestations ou de phénomènes ponctuels et uniques au monde, observent messieurs Carlos et Savard. Les principaux événements sont souvent ressassés sans que l'on apprenne beaucoup plus sur ce qui les a influencés, observent les deux historiens en entrevue. Cela les intéressait de contribuer à l'écriture d'une histoire globale dans une perspective plus large. Même si la Révolution tranquille est étudiée depuis des années, il demeure des zones d'ombre nombreuses. Cela tient en partie au fait que nous avons une compréhension très centrée sur la question québécoise, observe Jean-Philippe Carlos en entrevue. Mais comment se donner les moyens de mieux comprendre ce qui s'est joué au Québec sans le considérer à la lumière de l'effervescence des Sixties, les soulèvements étudiants comme mai 1968, du développement du concept d'État-providence et de plusieurs courants d'idées qui balayent alors le monde entier? Les livres et les ouvrages collectifs nombreux qui ont présenté une synthèse ou une vision large de la Révolution tranquille se sont somme toute peu attardés à considérer ce qui se déroulait en parallèle ou en conjonction dans le contexte canadien, nord-américain et international. Y a-t-il eu, par exemple, d'autres révolutions tranquilles? Est-ce que l'idée même peut s'envisager à l'étranger? Le modèle québécois était-il si particulier? Il s'est élaboré en tout cas en parallèle au Canada anglais, la mise en place d'une politique, d'une culture et d'une identité anglophone. Une révolution tranquille canadienne-anglaise s'est déroulée. C'était déjà la thèse du professeur Rosé Higartois que renforce dans ce livre Matthew Hayday, professeur d'histoire à l'Université de Guelph. L'attention portée aux volontés de réformer l'agriculture durant cette période demeure par ailleurs peu étudiée. La Révolution tranquille se voulait aussi agraire. Le saviez-vous? Dans ses pages, Sarah Miles donne à lire une analyse originale des rêves de réforme de la terre qui existent du moins chez certains militants au cours des années 1960. « Ça ne réussira pas », observe Stéphane Savard, « mais il est intéressant de voir que cela a existé et ce que cela voulait dire à l'échelle du monde ». C'est en fait un aspect très peu connu de la Révolution tranquille. Même si on se réfère toujours à l'élan économique de la Révolution tranquille, son histoire est un enfant pauvre, considère Jean-Philippe Carlos. Le grand bond économique en avant, nous oublions qu'il a été inspiré par des expériences extérieures. Il est souvent question de la place qu'a joué le développement de l'hydroélectricité dans le développement d'une conscience étatique nouvelle. Cependant, la deuxième nationalisation d'Hydro-Québec, réalisée en 1963, est inspirée par le modèle ontarien. Les politiques keynésiennes viennent pour leur part de la Grande-Bretagne, et des efforts de planification sont directement inspirés du modèle français. Tout cela est d'ailleurs en partie le fait de jeunes gens qui sont sensibles à ces expériences internationales parce qu'ils ont étudié à l'étranger et qu'ils importent ces manières de concevoir le monde. Il est aussi question, dans les pages de ce livre, des réformes dans le monde de la santé. C'est majeur ce qui se passe dans le monde de la santé à l'époque. On voit d'ailleurs aujourd'hui à quel point la question de la santé est fondamentale en société, dit Stéphane Savard. Et pourtant, on en parle peu lorsqu'il est question de la Révolution tranquille, alors que des changements majeurs se dessinent. C'est l'époque où la conception des hôpitaux psychiatriques se voit par exemple réformée, expose Alexandre Klein, professeur à l'Université d'Ottawa. L'influence de la psychiatrie internationale se faisait alors sentir depuis longtemps. Quoi qu'ait pu écrire sur cette question à l'époque le psychiatre Camille Lorrain. Le réveil au monde. Une autre partie du livre observe les considérations sur le Québec de la Révolution tranquille à partir de ce qu'en ont dit les médias étrangers ou des acteurs ou des associations en lien avec l'international. Comment les représentations d'un nouveau Québec influencent-elles les relations entretenues avec certains pays ou certaines régions, dont la Belgique et la Chine? À propos de la Chine, l'historienne Yuxi Liu montre que les années 1960 constituent un temps de diversification des perceptions à travers une reconfiguration des rapports avec le monde extérieur. Le réveil des petites nations n'était pas que l'affaire du Québec, rappelle Stéphane Savard. Le cas de l'Écosse est intéressant à observer en parallèle. De leur côté, les Acadiens auraient-ils connu à la même époque une sorte de révolution tranquille? L'ouvrage pose la question, par les voix des professeurs Marcel Martel, Julien Massicotte et Philippe Volpé. Il est aussi question de l'émancipation de la parole des Autochtones dans ces années bouillonnantes. De qui ou de quoi a-t-on oublié de parler dans ce livre? La révolution féministe, qui compte pour beaucoup dans cette période, brille pourtant par son absence dans ce livre. C'est un point faible de l'ouvrage, admet volontiers Stéphane Savard. L'historien souligne que ce livre, fruit à l'origine d'un colloque, a fait jaillir d'autres réalisations où il a cependant été question de l'émancipation des femmes. Le Québec n'évolue pas en vase clos. Durant la Révolution tranquille, les idées étaient infléchies par toutes sortes de mouvements qui ne sont pas propres au Québec. La laïcisation, l'interventionnisme d'État, même le nationalisme ont des ressorts étrangers qu'il faut considérer, soutient l'historien Stéphane Savard. C'était la Révolution tranquille entre l'ici et l'ailleurs pour une histoire globale. Un texte de Jean-François Nadeau paru le 2 avril 2024 dans Le Devoir.